Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques. D'un seul coup, l'illumination m'est venue s'il faut effectivement prolonger la durée du travail. Ce qui inquiète les gens, ce qui les pousse dans la rue, c'est de voir que c'est de 60 à 64 ans ou je ne sais quoi, alors que l'échéance est visible. Là, la mort approche. Eh bien, la solution pour faire bosser les gens plus longtemps, elle est simple. Quand on est gosse, on se rend pas compte que la vie, c'est pas un machin infini. Donc, bande de feignants, foutez vos enfants au travail dès l'âge de 12 ans. Il y a plein de pays où ça se fait. Et comme ça, leurs 49 annuités ou je ne sais quoi, ils les auront à l'âge de 55 ans, voire 60 ans. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il me semble qu'il faut que j'écrive à M. Macron et Mme Borne pour leur expliquer. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits... Je me souviens. Je me souviens de « Sous le béton, les pavés », écrit sur un mur du Babelville. Je me souviens de la tête de Marie dans sa poussette quand, pour lui caler une petite faim naissante, je lui avais acheté rue d'Avron une banane et avait commencé à lui donner à manger. C'était une banane plantain et pas une classique banane Cavendish. Je me souviens que Jean-Marie Le Pen n'a jamais gagné ses procès pour les affaires concernant la guerre d'Algérie. Je me souviens que Lionel se faisait appeler Johnny, en hommage à Johnny Rotten, pas Johnny Hallyday, devait-il préciser, et avec l'âge, Lionel parvenait encore à faire une iroquoise avec ses cheveux blanchis, iroquoise un peu ridicule à cause de sa calvitie. Je me souviens que Philippe, le comptable, avait gardé une photocopie de la facture que le maire lui avait donnée pour remboursement lors du passage de la déléguée du jumelage avec la ville de Darmstadt, je crois. La facture, c'était 2 sandwich clubs et une chambre d'hôtel de midi à 16 heures. Je me souviens que mon oncle Olivier avait dans son bistrot une affiche dédicacée de Jeanne Sourza et Raymond Souplex dans Sur le banc et qu'il me répétait à chaque fois « Tu sais, le feuilleton sur Radio Luxembourg avec les deux clochards qui parlent et font de la philosophie. » Moi, ça me disait rien, mais je lui disais « Oui, oui. » Je me souviens que mon grand-père m'avait enseigné sa méthode pour éradiquer les limaces de son jardin juste avec des pots de melon. Bon, fallait quand même se lever à 5h30 du matin et aller dans le jardin avec une tige en métal pour y enficher un par un les gastéropodes en train de se délecter de la peau de melon. Était-ce vraiment bio avant l'heure? Je me souviens que c'est lors des grandes grèves de 95, contre le gland Juppé droit dans ses bottes, que sont apparus les premiers gros ballons dans les manifestations, gonflés à l'hélium, solidement arrimés aux camionnettes des organisateurs, CGT, CFDT Sud à l'époque qui démarrait et autres, ponctuant les cortèges et en marquant les différentes sections, dépassant au-dessus des grands arbres des boulevards parisiens. Je me souviens également du groupe de chanteurs sur le camion plateforme du SNES, avec choriste, guitare, batterie qui chantait « J'ai vu dans ma tête qu'on payait des clopinettes » sur l'air de Suzette de Danny Briand. Je me souviens qu'en visitant une école militaire, le président MacMahon avait dit « C'est vous le nègre, c'est très bien continué », sachant quand même que le nègre désignait en argot militaire le premier de promotion. Le tout fut repris en citation dans « Bon baiser de partout », dans la première entrée en scène de l'adjudantifrice de Pointe-à-Pitre, avec la voix de Claude Dassé. Je me souviens qu'un 6 septembre, les cours de fac n'ayant pas encore commencé, Guillaume était parvenu dans son ancien lycée et avait tapé l'incruste sur les photos de classe de toutes les classes de terminale, sans se faire remarquer, même du photographe professionnel blasé. Je me souviens du type croisé dans une manifestation vêtu d'un pull à rayures jaune, blanche et rouge, d'un bonnet blanc à pompons rouges, flanqué d'un photographe et profitant de la foule pour être quasi invisible sur les photos, mais c'était son objectif, il jouait à « Où est Charlie ?». Je me souviens que mon boulanger de la place des Fêtes avait dû fermer 2 semaines par arrêté préfectoral pendant le second confinement, pour avoir vendu une baguette 10 minutes après l'heure du couvre-feu. Le rideau de fer baissé de sa vitrine fut couvert de petits mots de soutien des habitants du quartier, y compris de ceux qui ne lui achetaient pas de pain parce que son pain n'était pas si bon que ça.
Ils disent que jeunesse, ça passe. Ils disent que de vivre, ça lasse. Ils disent que demain ne vaut rien. Ils disent que la vie n'est que chagrin. C'est ce que prétendent les anciens. N'écoutez pas leur sens commun. N'écoutez pas ces vieux déçus qui vous veulent tels qu'ils ont vécu. Vous qui venez de naître à cette terre, qu'il a découvert dans sa lumière, vous à qui ils disent trop tard, bien que si belle encore à voir. N'écoutez pas ces mots amers de ceux qui ont pollué la mer et la terre, ceux qui vous laissent un air corrompu et qui vous disent que c'est foutu. Vous qui venez de naître à cette terre, qu'il a découvert dans sa lumière, sachez que cette terre est à vous et qu'elle survive dépend de vous. Surtout récusez leurs vieilles croyances. Sachez qu'on peut encore en guérir de notre histoire, de notre tendance à toujours provoquer le pire. Vous qui venez de naître à cette terre, vous à qui nous devons l'avenir, pour qui le souvenir est nécessaire comme exemple à ne pas reproduire. Vivez à l'envers de l'histoire, surtout vivez autrement. Vous devez encore y croire, car il en est vraiment encore temps. Vous qui venez de naître à cette terre, qu'il a découvert dans sa lumière, donnez-lui de votre jeunesse et que de nos cendres elle renaisse. Ne croyez pas qu'il soit trop tard. Refusez ce qu'ils veulent vous faire croire. Refusez le déclin annoncé. Refusez, refusez, refusez.
L'envie de passer cette petite chanson d'ouverture m'est venue de la lecture d'un article du Canard enchaîné cette semaine, évoquant un disque tout juste sorti chez Jacques Canetti Édition, un disque de chansons de Serge Rezvani, Sirius Passiac quand il composait des chansons, interprétées ici par Dominique A, et puis il y en a quelques autres sur l'album. Rezvani, auteur pour la littérature, pour le peintre, et également auteur de chansons. Alors, si je me souviens bien, c'est Francesca Solville qui lui a offert sa première guitare pour lui dire « Oh, vas-y, fais-nous des petites chansons entre nous ». Et puis un jour, les petites chansons se sont retrouvées comme musique de film interprétée notamment par Jeanne Moreau ou Anna Karina. Et puis Serge Rezvani déclarait qu'il a plusieurs arcs à sa flèche, ce qui est une belle façon de dire qu'il a un objectif dans tous les domaines artistiques et qu'il accepte de l'atteindre avec beaucoup de domaines artistiques différents. On verra si au fil de cette émission, je vous passe un autre extrait de cet album sorti chez Canetti. Et dans l'immédiat, eh bien, Moa, je te laisse présenter nos invités dans le studio.
On va commencer donc par celle qui est à ma droite, Véronique Brocard.
Bonjour.
Donc, présente-toi.
Eh bien, moi, je suis donc journaliste, spécialisée surtout dans les affaires judiciaires, mais pas que, et en l'espèce, et c'est pour ça que je suis là, dans le suivi du terrorisme, et là, vu l'actualité, du terrorisme islamiste.
Donc, son livre s'intitule « Comment la France prépare la sortie des détenus radicalisés ». Voilà. Voilà. Donc, elle nous en parlera avec plus de détails tout à l'heure. Et donc, à ma gauche...
Une autre Véronique.
Une autre Véronique, Véronique 2.
Véronique Rose de la Grange.
Rose de la Grange.
Donc, je suis metteuse en scène, et non pas menteuse en scène, comme on m'a nommée récemment dans
cette... Wow.
C'est pas mal, menteuse en scène. C'était une faute de frappe. Je me suis dit, comment le prendre ? Et donc, moi, je suis metteuse en scène et chorégraphe aussi. Et je viens ici, nous venons ici avec Furiosa, qui est donc musicienne, pour parler d'un spectacle qui s'appelle « Rien ne me sépare de la mer » dans qui m'entoure, et qui est tiré, et même qui est même, c'est le texte de Virginie Despentes. C'est un texte inédit de Virginie Despentes qu'on a joué récemment à Paris.
Très bien. Et donc,
Bien, je suis furieuse et j'ai travaillé sur ce texte et sur ce manifeste opératique qu'on a eu
côté
la chance
musical.
De jouer. Côté musical, scénique, performative, quand même.
D'accord.
Ça va, je crois, au-delà de la simple performance musicale, mais c'est mon point de vue. C'est un... voilà.
Et donc, tu as apporté ton...
Voilà, alors j'ai apporté un petit clavier et un ordinateur, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le diffuser. Mais ça aurait été avec grand plaisir.
Ben oui, c'est
et
dommage.
Donc, ça vous obligera à
Nicolas,
aller...
Nicolas, tu ne peux pas nous résoudre ça.
Je vais essayer. Je vais aller regarder ce qu'on a dans le studio du fond. Mais...
Voilà. Ah, ce serait pas mal.
Ben oui,
mini
oui.
Jack, gros Jack, peut-être que vous aurez de la musique en direct.
On n'a rien contre les Jacks.
Et on n'a rien contre les Jacks, car nous avons au plateau Jacques Michel. Jack Michel.
Oui, absolument.
Qui est comédien.
Céline Gormarty qui a interprété le rôle de l'autre comédienne. Mmh. Et surtout aussi avec moi, Béatrice Graff, qui est la batteuse avec qui on a fait la musique. Et voilà.
La batteuse.
La batteuse, la fameuse batteuse.
La batteuse, la metteuse.
La chanteuse.
La chanteuse.
La comédienne.
On ne dit pas écriveuse pour Véronique.
Bon, alors, moi.
Autrice.
Autrice, ouais, c'est pas mal finalement.
Auteur.
Compare tradition.
Auteur, oui.
Je démarre toujours avec un son.
Oui.
Ah.
Voilà, voilà, voilà.
Bravo.
Donc Radio Libertaire 89.4. Donc à vos radios, à vos transistors, auditeurs, auditrices, nous sommes là. Et vous pouvez intervenir quand vous voulez aussi. Donc on démarre par notre droite, éventuellement.
Voilà.
Donc c'est...
Droite de la table.
Oui. Droite de la table.
Droite de la table.
Voilà.
Plutôt démarrer par la gauche.
Le fait d'être ici...
C'est Véronique Brocard. Véronique Brocard, donc. Ils vont tous sortir un jour de prison, dit-elle. Voilà, et si on les traite comme des animaux, alors on sait ce qui va se passer. Est-ce qu'on fait... Et efficace, c'est quand ils seront dehors qu'on le saura. Voilà. Donc des centaines de détenus accusés de terrorisme islamiste purgent leur peine, etc., dans les prisons. Et puis, pour la première fois, ce livre fait entendre celles et ceux qui préparaient leur réinsertion dans la société. Voilà. Donc, elle va nous expliquer tout ça. Véronique.
En fait, on a tous suivi l'actualité et on a eu, il y a eu dans les tribunaux et dans les prisons un afflux très très important et très nouveau de gens qui étaient poursuivis pour terrorisme islamiste ou association de malfaiteurs pour propagande, soutien. Dans un premier temps, il n'y a pas eu les auteurs des attentats, puisqu'il n'y a pas eu d'attentat avant. Il y a eu des tentatives d'attentat, mais il n'y a pas eu d'attentat avant Charlie et l'hypercachère. Donc, mais il y a eu quand même énormément de détenus. Donc la question, elle a été très claire.
Mmh.
Elle est très difficile. Et autant pour les magistrats et en l'espèce là, pour mon enquête en prison, c'est-à-dire avec la certitude mécanique que ces détenus, ces condamnés pour terrorisme islamiste au sens général du terme, allaient sortir. Et donc la question est dans quel état ?
D'accord.
Est-ce qu'on peut les insérer ? Est-ce qu'ils sont capables de vivre avec nous ?
Alors, tu les as interviewés, interrogés ? Comment tu as fait pour pénétrer dans ce monde ?
Alors, comment j'ai fait ? D'abord, il a fallu que je me barre de je ne sais pas combien d'autorisations, parce que je suis rentrée dans les prisons, mais plus que la prison. Je suis rentrée au cœur de là où ils sont détenus.
D'accord.
Alors évidemment, j'avais mis de mon côté les pires conditions, c'est-à-dire journaliste dans une prison, c'est déjà une catastrophe. Journaliste qui s'occupe dans une prison des terroristes islamistes ou assimilés à eux, Donc c'est en deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, c'est que je suis une femme.
D'accord.
Mais les choses parfois se font avec beaucoup de patience et d'obstination. L'administration pénitentiaire m'a permis de rentrer dans ces quartiers spécialisés.
Donc comment reconnaître les islamistes? Ils sont parqués avec un titre islamiste ou comment?
Avec un pins, non. Non, ils sont surveillés, ils sont installés dans des quartiers spécialisés, pas tous, parce qu'en fait, la grande difficulté, outre l'idée la première qui était comment ils vont sortir, qu'est-ce qu'on va faire pour eux. Alors, on ne va pas faire d'angélisme, on ne va pas faire d'altruisme non plus. Cette question-là, c'est une question qui est intéressée au sens de la société. Ce n'était pas pour leur faire plaisir, évidemment. C'est qu'en sachant qu'ils seront dehors, c'était évidemment protéger la société d'une éventuelle récidive. Sachant qu'il y en avait à peu près 500. Et que là, 250, aujourd'hui, sont sortis de prison.
D'accord.
Donc, y a
depuis
quand même,
ton intervention.
Il y a quand même 250 personnes condamnées pour terrorisme islamiste qui sont...
libérées.
Qui ont été libérées. Sachant que ces personnes ont été condamnées... dans un cadre pour un plus un délit qu'évidemment pour les crimes, ce qui évidemment rend possible leur sortie de prison, parce que ceux qui ont été condamnés maintenant pour crimes, attentats, etc., sont condamnés à des peines qui à 30 ans, des peines à perpétuité, incompressibles. Donc c'est pas de ceux-là dont on parle. On parle de ceux qui ont été condamnés à des peines inférieures à 10 ans, ce qui rend leur sortie possible.
D'accord. Alors dans quelles conditions tu les interrogeais? Est-ce que c'était cellule par cellule ou tous ensemble? Comment ça se passait?
Ah bah non, la sécurité, comme ça, un détenu qui est condamné pour ça est surveillé, il est retenu dans des conditions extrêmement particulières, dans des quartiers isolés, à l'isolement eux-mêmes, parfois, pas tous, mais et donc quand ils sortent, ils sont soumis à des règles de sortie et de déambulation, si on peut dire, dans les couloirs, qui font que ils sont encadrés. Il y a des quartiers où ils ne peuvent pas être, il ne peut y avoir qu'un seul détenu dans le couloir lui-même, entouré par 4 voire 5 surveillants. Et après, là, il me les emmenait dans une pièce qui était un petit studio comme celle-là.
Et donc, c'était en direct, vraiment? Ou il y avait une séparation?
Non, il n'y avait pas de séparation. Ce n'est pas des parloirs.
Et qu'est-ce qu'il y avait pour ta sécurité?
Alors,
à toi,
quand on rentre déjà dans ces quartiers-là, on a toujours une alarme individuelle qu'on peut actionner. On a dans la poche, c'est obligatoire, qu'on peut actionner à tout moment. Ensuite, quand on est avec eux, il y a les gardiens ferment la porte. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné, parce que les premiers que j'ai interviewés, ils nous avaient laissé la porte ouverte, mais il était en fin de peine. Il était dans une détention habituelle, normale, classique. Donc lui, il y avait moins de tension, mais d'autres... Alors ils ferment la porte, ils sont tous derrière la fenêtre, les hublots qui nous permettent... Et donc il y en a 3 derrière le...
Et à l'intérieur, est-ce qu'il y avait des surveillants qui
protégeaient? Non, j'étais seule avec eux. Il y a une caméra, il y avait des systèmes de miroirs qui permettent de voir tous les coins.
Donc c'est très sécurisé, quoi.
C'est très sécurisé. J'étais obligée d'être en face de la vitre pour que, par les yeux, je puisse envoyer des signaux de détresse éventuellement, ou des signaux en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'était pas question que le détenu bouge.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à un moment, un détenu voulait relire mes notes pour voir si j'avais bien noté tout ça. J'ai accédé à sa demande, il n'y avait aucune raison que je ne le fasse pas. Il s'est déplacé de 80 cm à peine, parce que c'est une table rectangulaire, pour pouvoir lire les notes que je lui tendais.
Et ça a alarmé.
Et les surveillants m'ont dit après, mais vous êtes complètement, mais vous êtes dingue. Ah. On était prêt, on avait la clé dans la serrure, prêt à lui sauter dessus.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est vraiment des conditions extrêmement sécurisées.
Eh bien, et toi, tu étais à l'aise, tu avais pas.
Alors moi, j'avais pris l'option assez. Volontaire, une posture, mais là vous allez comprendre. Je parlais à des gens de théâtre, je sais pas, moi je fais pas de théâtre, mais j'avais décidé d'envoyer rien, d'être extrêmement neutre.
D'accord.
Ni poli, mais j'avais essayé d'envoyer ni intérêt particulier,
ni rejet,
ni inquiétude, et ni volonté d'avoir qu'il me parle, en fait.
Donc aucune panique, rien.
Rien. J'étais comme ça posée et je commençais. Alors quand j'ai la première fois, ils ont fermé la porte. J'étais avec le détenu en haut. Ils ont fermé la porte. J'ai fait non. Ils m'ont déjà enfermé avant de faire rentrer le détenu. Et là j'ai dit ah ben non. Dans ma tête j'ai dit oh là là. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai eu un petit moment et très vite je me suis ressaisie en disant je ne faut pas lui envoyer quelque inquiétude que ce soit. Il faut, voilà. Et je commençais toujours les entretiens comme
ça. Ça a duré combien de temps?
Ça a duré entre une demi-heure et deux heures.
Chacun.
Et l'idée, c'est je commençais toujours les entretiens par leur dire je sais quel est le délit, je sais pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas le détail de ce que vous avez fait qui a amené votre condamnation. Si vous voulez vous m'en parler, très bien. Sinon, ceci ne m'intéresse pas. Moi, est-ce que je suis là pour faire une enquête sur les conditions de détention, sur ce que l'administration pénitentiaire vous propose sur la question de la déradicalisation, la question de la prise en charge, la question psychologique, éducative, religieuse, qui mettent en place dans le temps de votre détention. Et je disais aussi, si vous ne voulez pas me parler,
vous êtes libre.
C'est votre droit absolu, vous pouvez partir, il n'y a aucun problème.
Nicolas, tu as quelque chose à nous proposer ? Petite parenthèse.
Oui, bien sûr.
Écoutez ma chanson bien douce que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elles respectent la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. jusqu'aux pieds sa burqa austère, et garante de sa décence, elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive, elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares, dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mot charabia triste, né de coutumes esclavagistes, et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité.
Véronique.
Moi.
Alors, donc, si j'ai bien compris, dans ton livre, tu parles souvent du voyage en Syrie, du retour en Syrie. Est-ce que c'est très important c'est un délit d'aller en Syrie, d'en revenir? Pourquoi?
La question du terrorisme islamiste avec la justice est un contentieux qui est court dans le temps, parce que ça commence à peu près 2013-2014. Bon, on est même pas à 10 ans, mais qui est extrêmement complexe et qui a été extrêmement qui a énormément varié. Cette courte histoire est pleine de péripéties. Donc, dans un premier temps, retour en Syrie, c'était considéré comme un délit. Parce que à ce moment-là, on mesure pas la dangerosité de ces allers-retours.
D'accord.
Et puis avec le temps, c'est devenu un crime. Donc maintenant, quand en 2016-15, on était jugé pour un aller-retour, une tentative d'aller en Syrie ou un retour, on avait 8 ans de prison. Aujourd'hui, les femmes, par exemple, qui reviennent des camps, sont condamnées à 15-18 ans.
Oh, c'est ça qui m'a paru bizarre. Donc, je me dis, mais pourquoi on les condamne alors qu'ils n'ont rien fait? Il y a juste fait d'aller en Syrie et revenir.
Ils ne sont pas allés en Syrie, elles sont allées rejoindre Daesh, ce qui est carrément différent.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elles ont été rejoindre un État islamique qui a revendiqué de semer la mort en Occident, de tuer les mécréants, de jeter les homosexuels des balcons. Enfin bon, c'est un État, un pseudo-État, puisqu'il n'a jamais existé en tant qu'État, mais qui est quand même déclaré la guerre à la France. Donc, vous n'allez pas rejoindre Daesh, y faire des enfants, soutenir des combattants, vous-même être dans l'idéologie Daesh, sans avoir de part de responsabilité.
Bien sûr. En tout cas, pour moi, ce n'était pas assez explicite. Je me disais, mais pourquoi à chaque fois, dès qu'on va en Syrie, on revient en Syrie, on est condamné pour XX années de prison?
C'est pour ça, c'est que à partir du moment où vous allez rejoindre un État, un groupe terroriste et qui sème la terreur sur le territoire français, vous êtes considéré comme faisant partie de ce groupe terroriste.
D'accord. Voilà. Donc, même si on n'a pas commis de crime.
Mais en même temps, c'est un peu un crime, parce que c'est quand même une preuve de détermination. Là, assez puissante.
En droit, la complicité vaut l'acte principal. Les gens qui sont partis sont partie prenante de cette entreprise de destruction. Ils sont partis pour plein de raisons, qu'on pourrait. On serait très long à raconter, mais la question qui se pose avec ces détenus-là, c'est la question, et on en parlait hors antenne, c'est la question de la déradicalisation. Comment est-ce qu'on fait? Alors, longtemps, et ça a été la question fondamentale, déradicaliser ces gens. D'abord, ils étaient en prison, donc il fallait prendre leur cerveau, essayer de travailler sur leur cerveau. Maintenant, la question, elle ne se pose plus comme ça. Ils considèrent que on ne déradicalisera personne de sa croyance ou de sa
religiosité,
ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en France, être un croyant catholique extrêmement radical qui va s'agenouiller devant les hôpitaux pour contre l'avortement, être un juif qui est extrêmement radical, c'est pas un crime et c'est pas un délit. D'accord. Vous avez le droit d'exercer votre foi de la manière dont qui vous plaît. La question, c'est le passage à la violence. Et là, ça devient très compliqué.
Oui.
Enfin, à la fois très simple, très compliqué. C'est-à-dire que c'est ce passage-là sur lequel ils essaient de travailler en faisant prendre conscience à ces détenus de la difficulté et inacceptable et la nécessité de sortir de cette violence-là qu'ils ont prônée du matin au soir. Moi, j'ai rencontré un détenu pour qui ça avait plutôt bien marché. C'est-à-dire que lui-même me disait que maintenant, la nuit, il se réveillait avec des crises d'angoisse, de terreur, en disant « Mais j'ai emmené toute ma famille en Syrie et je leur ai fait vivre ça. » Et voilà, il a tout d'un coup absolument compris ce qu'il avait fait. Il a même... Alors après, on rentre dans des trucs qui pour nous est un peu, enfin pour moi en tous les cas, un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il avait autorisé sa femme à enlever son voile intégral, il avait autorisé sa femme à percer son permis de conduire, et il avait autorisé, alors là, moi ça m'avait absolument sidéré, il avait autorisé sa petite fille de 5 ans à mettre un short pendant l'été.
D'accord.
Alors je lui dis, mais attendez, vous auriez fait quoi? Elle dit, ah ben non, elle était habillée. Vous alliez quand même pas la voiler. Ah, mais pudeur, la petite fille. Quoi. Et pour lui, la manière incroyable pour montrer le progrès qu'il avait fait, c'est qu'il a dit, voyez, ça fait 2 heures que je suis avec vous, je vous ai regardé dans les yeux, vous êtes une femme, vous êtes seule. Je ne l'aurais pas fait quelques années auparavant. Après, il se pose une autre question que tout le monde se pose. Évidemment, c'est la question qui arrive à la suite. Quel est le degré de sincérité de ces gens-là, de ces détenus-là, montrent, évidemment... Alors ça, c'est le gros problème auquel tout le monde est confronté. Vous avez toute la partie... de l'individualisation du détenu, c'est-à-dire les psychologues, les surveillants, les conseillers d'insertion et de probation, ceux qui s'occupent à la sortie, les éducateurs.
Alors justement, quels sont les moyens d'insertion qui sont proposés dans les prisons?
Ah ben, il n'y en a aucun pour eux.
Aucun.
Il faut vraiment... non, il n'y en a quasiment pas. Insertion, déjà, en prison, en général, il n'y en a pas. Donc, voilà. Et alors, eux, encore moins. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de remise de peine. Ils ont c'est extrêmement rare qu'ils aient la possibilité de travailler. Puis, ils restent sur une surveillance absolument permanente.
Strict.
Donc, en prison, il n'y a pas de réinsertion. La question, c'est comment travailler l'esprit et l'âme de quelqu'un qui va sortir et dans notre société.
C'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est prévu?
Il y a des psys, il y a des éducateurs, ils sont suivis par ces gens-là, par des spécialistes du fait religieux qui essayent enlever le carcan d'idéologies religieuses parfois basées sur des trucs internet à tout balle. Donc ils sont entourés par des gens qui essayent de travailler sur cette question-là pour les enlever de la violence. Et puis de l'autre côté, alors là, vous avez les surveillants sécuritaires, le renseignement pénitentiaire, la DGSI, etc., qui, eux, sont aussi extrêmement présents. Et vous avez là un choc entre ces deux grandes parties, l'humain, si on peut dire, et la sécurité, qui s'affrontent en permanence avec autour du détenu en question. Ce qui fait que ils passent ceux qui sont sensibles à ce qu'on leur propose éducation, enfin avec les éducateurs, les psys, etc., sont sensibles. Et ils disent, nous avons changé, j'ai pris conscience d'eux. En face de ça, vous avez des gens qui disent, ah ah, ils mentent. Mm-hmm. Ils ne sont pas sincères. Parce qu'il y a la fameuse dissimulation, la fameuse taqiya, qui a servi à beaucoup d'islamistes de faufiler entre les mailles du filet. Et donc, ils se disent, oui, non, mais ils sont en train de tricher, ils sont en train de se mettre, de raconter une belle histoire pour faire croire à leur, au retour dans la vie, à, disons, la perte de certaines idéologies.
Est-ce qu'il y a des personnages religieux, musulmans, etc., qui sont justement pour aller dans ce sens pacifique de réinsertion, etc.?
C'est-à-dire qu'en prison, vous avez des imams.
Ouais.
Hein, ça, c'est
enfin, certains pour les, imams.
Pour certes, toutes les détenus. Là, je parle des prisons générales. Vous avez des imams. Et puis, là, ce n'est pas les imams qui travaillent avec eux. Ils peuvent demander un imam, à l'imam quelle est la date, l'heure exacte de la fin du ramadan, ils peuvent, comme tous les détenus.
C'est ça.
Ils peuvent demander des choses précises, mais de l'ordre du religieux. Là où le travail se fait, c'est avec des spécialistes du fait religieux, c'est-à-dire des philosophes, des philologues, des spécialistes de la pensée religieuse.
D'accord.
Et non pas des religieux. Et c'est sur ça souvent qui permet de travailler leur dogme, parce que souvent ils ont attrapé sur internet, parce que très peu parlent l'arabe et très peu en tous les cas parlent l'arabe classique, donc ils n'ont jamais lu le Coran. Pour la plupart,
ils parlent le dialecte.
Oui, certains parlent le dialecte quand ils parlent le dialecte, parce qu'il y a énormément de convertis dans cette masse, dans les 500, énormément de convertis. Il y a au moins 30 à 35% de convertis.
Il y a des Français convertis également.
Ils sont tous
Allemands.
Les Allemands sont en prison en Allemagne, j'imagine. C'est des Français, mais il y a des Français
qui ne sont pas d'origine maghrébine.
C'est même très très impressionnant, parce que c'est
la grande problématique de la radicalisation, c'est que justement on peut pas juste l'inscrire sur un fait qui serait une origine ou une perte identitaire due à là où on viendrait. C'est plus la société dans laquelle on est, comment elle a façonné tout d'un coup certains individus pour qu'ils en viennent à ça, et donc du coup c'est d'autant plus fascinant et même un peu étrange.
C'est vertigineux, parce que en fait personne ne sait dresser aujourd'hui le portrait robot d'un islamiste. Alors, on a bien vu ceux qui devenaient de Syrie, qui s'étaient riqués, enfin ceux qui ont fait quand même, ils sont venus faire les attentats du Bataclan, et des terrasses. On a bien vu comment ils étaient formés, mais la plupart, il y a un attentat qui a échoué, heureusement, qui aurait pu être exactement comme Hyper Kacher, mais qui a raté. Dieu merci. Dieu merci.
Ni Dieu ni maître.
On ne va pas dire maître merci non plus. On ne sait plus quoi dire. En fait,
merci.
À force de parler de Dieu, ça contamine.
Ça contamine.
Est-ce que tu as déjà pensé à y aller sur place en Syrie pour faire un reportage?
Je me suis
en tant que journaliste, je veux dire.
Je me suis contentée, et ce qui déjà, je trouve un énorme travail, de suivre depuis 2015 tous les procès de femmes et d'hommes condamnés, poursuivis pour ça.
D'accord.
Ce qui a fait évidemment un travail absolument gigantesque, parce que il y a eu la grande vague des dizaines et dizaines et dizaines de wagons de gens qui ont été condamnés à la correctionnelle, puisqu'il y a une chambre quasiment dédiée pour ça. Et puis après ont commencé les grands procès, Charlie Hyper Kacher, puis il y a eu après le 13 novembre, et puis il y a eu après Nice. Moi je suis restée à ce niveau-là, mais j'ai eu ma dose. Vraiment ma dose.
L'idée ne t'a jamais traversé d'y aller, quoi.
L'idée ne m'a jamais traversé d'aller rejoindre Daesh,
On aurait pu.
Avant, j'aurais pu être. C'est ça,
par brigadier.
Oui, c'est ça. Par capillarité, empathie.
Prendre le risque d'être pris en otage.
Non.
Comme le journaliste de Libération.
Ouais, non, 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 je suis pas parti.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, Nico.
Claude Semal sur l'album Musical en 1989 avec cette très belle phrase « Je respecte la foi de qui respecte mes blasphèmes ».
Wow. Oh, yes. Joli, DJ.
Ok, mais Véro.
Il n'y a plus rien à dire.
Ah, ouais, ça, c'était très beau.
Merci beaucoup.
Une bise.
Allez.
Voilà.
Bon.
Et on te tient au courant.
À bientôt.
Au revoir, Véro. C'était génial. Bravo.
On pourra lire le bouquin.
Ouais.
Ciao. Et toi, on t'attend au spectacle.
Eh oui, avec plaisir.
Appelle Domi, là, si t'as le temps.
Ouais, mais j'ai...
Ouais.
Oui, je l'appellerai.
Ciao.
Bisous.
Ciao.
Bon, alors, on revient à nos amis... Véro et...
Furiosa.
Furiosa. C'est quoi d'origine...
Furiosa, c'est d'origine interstellaire, probablement. Ah. Non, c'est un nom que d'emprunt.
D'accord. C'est un
nom d'artiste.
C'est un nom d'artiste, absolument.
Finalement, alors, rien ne me sépare de la merde qui m'entoure.
Donc, c'est quoi cette merde, alors, finalement? D'où elle vient?
Par exemple, ce dont on vient de parler avec Véronique Brocard, c'est-à-dire, nous, on n'a pas parlé, mais... C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé en entendant donc cette prise de parole de Virginie Despentes, qui était donc en octobre 2020, on était dans toute l'affaire Covid et toutes les restrictions délirantes et notamment, on n'a jamais été vraiment sûr qu'elles soient vraiment utiles. Par exemple, le kilomètre, l'heure.
C'était devant Beaubourg, voilà. C'est ça?
Et donc, c'était à Beaubourg qu'elle a fait ça. Uh-huh. Et c'était, il se trouve, à la veille du couvre-feu. Donc on était, ce fameux couvre-feu, on a commencé à plus avoir les
c'est en quelle année déjà?
C'est 2020.
2020.
Voilà, et donc elle a fait cette prise de parole, la thématique était, c'était Paul Preciado, je crois, qui avait organisé cette affaire, sur la thématique corps collectif révolutionnaire.
D'accord.
Et donc moi j'ai entendu ça, et ça m'a véritablement... on va dire bouleversé, touché, perturbé, parce que toute cette théorie du rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, qui est une sorte de mantra qui revient dans son texte, c'est quelque chose que moi je perçois très puissamment, et notamment en entendant ma Véronique Brocard parler de la sortie des détenus radicalisés ou de n'importe quel fait, en fait, de société, duquel je ne peux m'extraire. Et en fait, je ne peux pas juste condamner, juger, aimer, être dedans, être dehors, pas faire partie de... Non, toute cette merde-là, aussi violente, belle, monstrueuse et...
Qui te colle à la peau.
Mais à notre peau, je crois. C'est-à-dire. Voilà. Et donc, c'est ce mantra-là qui m'a en premier vraiment percuté. Et ensuite, ce qui m'a percuté, c'est que son texte commence par une histoire de censure intérieure. Et le Covid, je trouve, a révélé d'une manière assez puissante nos capacités à nous soumettre et à nous censurer intérieurement. Et moi, quand j'ai commencé à percevoir que je ne disais plus tout partout, que je commençais à faire gaffe par lassitude de me faire sauter dessus, ou par lassitude de devoir m'expliquer, ou déjà j'avais eu toute cette séquence gilet jaune où dès que je pouvais émettre un doute sur le fait que peut-être ça n'était pas juste une bande de gros cons avec des gilets jaunes qui beuglaient pour cramer des Porsches, et qu'on se faisait un peu soupçonner de je ne sais quoi, de je ne sais quelle radicalité justement, ou inconscience, etc. Voilà. Et donc, son texte démarre, et donc Furiosa va vous le balancer, parce qu'il est rappé dans le spectacle, il est repris au départ, il est d'abord pris par moi ou l'autre comédienne au départ, d'une manière extrêmement, comme un discours intérieur. C'est comme ça qu'elle démarrait son texte, et le texte qui est dans le spectacle est dans le bon ordre, à peu près. Et donc, c'est cette histoire de censure intérieure, en fait.
Voilà. D'autocensure.
D'autocensure, en fait, de comment on se rend compte qu'on finit par... C'est tellement puissant ce qui se passe autour de nous. Bon, il y a quand même toujours un peu ça dans la vie, on fait gaffe à ce qu'on dit. Mais qu'on se comporte justement comme des gens radicalisés qui seraient en danger de quelque chose. Et donc, on planque notre pensée.
D'accord.
Et après, ce que je trouvais qui s'est passé, c'est que il n'y avait plus d'échanges possibles. On était vraiment dans le bien, le mal, la bonne attitude, la bien-pensance, les vilains complotistes, les vilains radicaux, les machins, voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai été frappée par cette chose-là, et je trouve qu'elle le dit très bien. Et
est-ce très que, bien.
Furiosa, tu vas vouloir nous le
rappeler. Furiosa, à vous.
Tu ne veux pas le dire.
Ah non, toi, tu vas. du coup, moi,
je vais le faire.
Alors, c'est pas le bon ordre.
Oui, c'est effectivement un moment comme ça... Effectivement, on réutilise des parties de texte qui sont parfois intérieures et parfois performatives. Donc c'est une manière de le dire un peu plus impactante.
J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête. Les vrais keufs, les keufs des autres, les keufs des adversaires, les keufs de mes amis. Je suis devenue un camp pénitentiaire à moi toute seule, avec des frontières de partout. Entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est bénéfique et ce qui est morbide, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Je rampe sous des barbelés parfaitement inutiles, mais que j'ai à avaler. Et j'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer et de les pulvériser, alors qu'ils me lacèrent à chaque pas. Je n'ai pas besoin que la police menace. Je menace toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense. Parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure.
Bravo.
Rien.
Super. Vraiment. Voilà. Et alors, c'est quoi, c'est une sorte de rap un peu?
Voilà, c'est ça. Bon, là, effectivement, je le scande. C'est une manière que je trouve intéressante parce que finalement, c'est...
Il y a de la révolte, quoi.
Voilà, on a appelé ça le rap parce que effectivement, le rap, à la base, c'est quand même un cri de... une exclamation comme ça de quelque chose qui est une révolte. Et puis aussi... pour crier son mécontentement, mais pas seulement.
Là,
pas
ça sort du ventre, là.
Et donc, voilà, carrément. Et donc là, l'idée, c'est que craché. Tout d'un coup, voilà, c'est aussi comment prendre le texte en le scandant, et évidemment, il y a une inspiration qui pourrait s'apparenter au rap.
Très bien. Nico ?
Oui,
mais,
alors,
cas,
sinon, je peux continuer, je peux reprendre sur un truc, qui est que, en plus de cette... de ce qui a pu me frapper dans ce texte, il y avait que Virginie Despentes, assez rapidement, ouvre dans le texte sur l'idée que si on dit révolution, il faudra dire douceur. Mmh. Et qu'en fait, elle part sur cette idée que c'est la joie que nous en tirons qui fait de nous des corps collectifs révolutionnaires. Et elle part aussi sur l'idée d'une nécessité, et même d'une nécessité vitale, mais pas benette, de bienveillance, mot qui a été galvaudé par tous ces abrutis, si je peux me permettre, et je m'en excuse pour toutes ces politiques, mais vraiment, qui sont bienveillants en écrasant les gens et qui se trouvent radicaux, ceux qui crament une bagnole pendant qu'ils vendent des armes au monde entier. Donc,
c'est un peu l'actualité qu'on vit.
Mais c'est
on l'a fait tellement actuelle. Ben oui. Elle, c'est une sorte d'appel à la révolution, mais à la révolution par évidemment par la lutte, hein, parce qu'on n'est pas là
chantant.
Pour rigoler, en chantant et en même temps par la douceur. Ah, et elle dit « Une révolution dans laquelle on ne met ni rêve ni joie, alors il ne reste que la destruction, la discipline et l'injustice. Et si on dit révolution, il faudra dire douceur. C'est-à-dire commencer par accepter d'être du côté d'une stratégie non productive, non efficace, non spectaculaire, et que seule la ferveur permet d'embraser. » Etc. etc.
Très bien.
Donc elle est vraiment... Et ça, moi j'avais la sensation que cette pensée, en fait, elle était... C'est ça la force quand on rencontre une parole ou un texte. C'est qu'on a moi j'ai la sensation que la pensée, elle sort de moi, mais qu'elle est juste formulée peut-être mieux ou plus facilement ou plus clairement parce qu'elle sort de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais c'est quand c'est comme un auteur ou une autrice, quand on lit, d'un coup on se dit « Mais merde, c'est ce que je l'avais au bord des lèvres. » Et toute cette notion, par exemple, de joie subversive, c'est-à-dire de penser que la joie, le rire et la douceur même, sont des valeurs subversives dont il faut savoir se servir comme combat. Je trouve que
c'est une arme.
C'est une arme. Et c'est une douce arme. Et que c'est fort parce que même soi, le prochain réflexe, c'est d'avoir envie d'avoir raison, c'est d'avoir envie de convaincre, c'est d'avoir envie de rentrer dedans. C'est vrai que c'est d'avoir envie de tout péter quand il nous énerve. Et comment justement on n'entre pas dans cette espèce de... sans vouloir être pacifiste à la con, hein, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, comment on réussit à travailler sur sa propre barbarie, en fait ? Comment on réussit à travailler sur son criminel ou sa criminelle intérieure ? Comment on arrive à pas justement s'extraire de la violence, mais la repérer en soi pour la transformer,
vivre avec
et transformer quelque chose. Et je trouve que ce texte, tout en ouvrant, parce qu'après l'autre sujet, c'est qu'elle donne énormément la parole à la jeunesse, et évidemment au féminisme, puisque le féminisme doit être révolutionnaire, et donc voilà, et donc c'est tout ça.
Donc moi, cette mère de qui entoure, elle est tout le temps là.
Elle est là, et je veux dire, elle fait, on peut pas, voilà, on a les pieds dans la merde et la tête au ciel, et on fait avec, et surtout on n'a pas à se croire hors de ça.
Au-dessus de, oui.
On n'a pas, au-dessus et ni au-dessus même des pires choses.
Ouais, ouais.
On n'a pas à les commettre. Moi, je
l'humanité comprend toutes ces choses-là.
Et on fait partie de l'humanité. Mais quand il se passe une merde à l'autre bout du monde, et quand on pollue le fin fond de
désert
avec notre uranium, enfin voilà, ou quand on va faire des batteries électriques de bagnole en faisant crever des gosses, je sais pas où, pendant que nous on roule avec l'air pur à Paris, etc. Et ben non, la merde, elle est partout, et nous, on la sème, sérieusement.
Absolument.
Voilà.
Très bien.
Est-ce qu'on a autre chose à dire ?
Mais vas-y.
Oui, non, il y a un petit teaser du spectacle ?
Oui.
Eh bien, on va l'écouter.
Voilà.
J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête.
Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Rien. Sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle.
Ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain.
Et j'en ai marre de croire en des choses qui ne me servent à rien.
En fait, les costumes, les maquillages.
Ah oui. Alors, oui, parce qu'il y a eu effectivement un gros travail sur la question de comment aussi on pourrait imaginer des personnages qui sortiraient un peu du réel. Et en fait, il y a eu tout un travail avec et d'abord Véronique Rose de Lagrange, et d'ailleurs moi un petit peu aussi, sur comment on pourrait travailler sur des personnages qui viendraient d'un autre monde, ou en tout cas qui seraient un peu rétro-futuristes comme ça, pour essayer aussi d'inventer une temporalité un petit peu différente.
D'accord.
Et aussi par la scénographie qui a été faite par Karim Bagri, chez La Lumière, par Yoann Tivoli, comment on pouvait créer un monde comme ça, qui un peu... Hors du réel.
Hors du temps.
Qu'est-ce que t'en penses, toi qui as vu le spectacle? Ça fait un peu ça.
Complètement, tout à fait.
Il y a un côté un peu ovni comme ça. Et...
Il y a un côté un peu aussi terrain vague.
Terrain vague.
Voilà, puis il y a ces images aussi derrière des images.
Puis il y a de l'absurde également.
Voilà, et puis il y a ces images derrière qui sont des images vraiment que moi j'ai récupérées à droite, à gauche, qui sont à la fois des images de rébellion, toutes ces images de manifs, de violences policières, mais en même temps des vieilles images de féminisme.
En tout cas, il y a un éclatement permanent, quoi.
Ouais, mais c'est ça qui était très intéressant sur ce texte, c'est que à la base il est absolument pas fait pour être au théâtre, et il a été dit par Virginie Despentes, donc dans le cadre d'une prise de parole publique, et en fait c'est là où son écriture elle est très saisissante, c'est à quel point en la travaillant, d'une part le texte a amené de la musique, et en fait il y a eu une espèce d'écriture de plateau, comme je dis, qui est une sorte de matière comme ça qui s'est mise à se développer, et peu à peu, en fait, c'est comme si nous-mêmes on s'était mis à décoller avec ce texte. Et vraiment, ça, c'était extrêmement intéressant. Et aussi, comment on traverse et la rage, mais aussi la douceur, et aussi ce monde qui vient, comment on peut l'imaginer. Et c'est ça qui est intéressant, que c'est pas uniquement une parole politique au sens comme on voudrait développer.
C'est pas un programme politique.
C'est pas un programme politique, il y a aussi une utopie.
C'est un programme poétique.
C'est un programme poétique. Et c'est ça.
Et utopique également.
Et utopique. Et que du coup, parfois, on a essayé de dire oui, mais quand même. Mais en fait, pourquoi? C'est quelqu'un qui écrit un texte et qui a une utopie qu'elle souhaite partager. Et du coup, on la partage là, nous, en scène, tous ensemble. Mmh. Et c'est aussi ça. C'est ce monde qui vient. Comment on pourrait le réinventer?
Et alors, voilà. Pour le public, est-ce que quelle sorte d'âge peut convenir à ce genre de spectacle?
Tous. Peut-être pas les gamins. Mais les en fait, on a eu vraiment
les ados,
ils ont
commencent déjà à comprendre.
Ah oui, ouais. Et puis
dès que ça cogite un peu,
comme,
ça va.
Comme il y a quand même toute cette chose vers la fin où finalement elle vient sur la jeunesse en disant qu'elle veut croire quand ils disent qu'ils vont faire la révolution. Elle veut les croire. Elle sait le monde de merde qu'on leur laisse. Elle sait, comme il y a une, je le disais aussi, à toutes les générations, on n'a pas échu le devoir de changer le monde. À ma génération, on n'a jamais dit si vous ne changez pas le monde, vous allez tous crever. Et ça, dès la maternelle, elle sait. Et donc, elle donne ce souffle à la jeunesse, en leur disant mais à vous quoi, moi j'y crois, allez-y. Et donc il y a cette utopie chez elle qui est géniale et qui donne du souffle, et avec du souffle on peut aller très loin en fait.
Alors j'ai pensé à une chose.
Oui.
J'ai prévu un texte de Mahmoud Darwish, palestinien, qui s'appelle Nous serons un peuple. Donc je vais vous le lire. Nous serons un peuple si nous le voulons. Lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n'est pas l'apanage des autres. Nous serons un peuple lorsque nous ne dirons pas une prière d'action de grâce à la patrie sacrée chaque fois que le pauvre aura trouvé de quoi dîner. Nous serons un peuple lorsque nous insulterons le sultan et le chambellan du sultan sans être jugés. Nous serons un peuple lorsque le poète pourra faire une description érotique du ventre de la danseuse. Nous serons un peuple lorsque nous oublierons ce que nous dit la tribu, que l'individu s'attachera aux petits détails. Nous serons un peuple, bien sûr, lorsque l'écrivain regardera les étoiles sans dire « notre patrie est encore plus élevée, plus belle ». Nous serons un peuple lorsque la police des mœurs protégera la prostituée et la femme adultère contre les bastonnades dans les rues. Nous serons un peuple lorsque le Palestinien ne se souviendra de son drapeau que sur les stades, dans les concours de beauté et lors des commémorations de la Nakba seulement. Nous serons un peuple lorsque le chanteur sera autorisé à psalmodier un verset de la sourate de Rahman dans un mariage mixte. Nous serons un peuple lorsque nous respecterons la justesse et que nous respecterons l'erreur aussi.
Bravo.
Et c'est tout à fait dans ce sens-là.
Absolument. C'est ces souffles-là qui nous font du bien, qui font pleurer, qui donnent envie de gueuler,
qu'on partage.
Cette ferveur des moments où moi je pleure devant il y a ça dans la musique en lointain, c'est El Pueblo, fond quand même, et que quand moi tout d'un coup je vois un peuple, et même si je sais que c'est pour le meilleur à cet instant et peut-être pour le pire rapidement malheureusement, quand je vois un peuple entonner un chant révolutionnaire, moi je suis bouleversée. Et donc c'est dans mon âme, c'est dans mon cœur, c'est comme ça, et ça se partage sérieusement.
Oui,
et
c'est ça qui est beau, voilà. C'est que vraiment sur ce truc-là, on a eu l'occasion de sentir justement ça,
qu'on
est tout d'un coup une seule voix qui se déplace à l'intérieur.
C'est comme un sang qui traverse une seule veine.
Et ça a été
très enthousiasmant et très jouissif et très productif. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler, bon, au début, on n'était que deux parce qu'on ne savait pas où on allait. Moi, j'avais de l'intention. Enfin, voilà, il y a eu une démarche. Mais très rapidement sont arrivées les deux musiciennes.
Ça a enrichi encore plus.
Et c'est surtout la vitesse. C'est-à-dire que, comme le dit Furiosa, c'est la vitesse à laquelle alors elles sont très douées, très talentueuses, etc., mais quand même la vitesse à laquelle le souffle poussait la musique à sortir, et comment tout, même moi le montage comme je l'ai fait, tout était évident quoi, ça. Et comment les bien sûr on s'est questionné, il y a eu des moments compliqués parce que c'est toujours difficile de mettre une parole discursive en scène, mais voilà.
Et puis je peux me permettre de dire un petit truc, on est en fait, sur ce trajet de ce projet-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés aussi sur ce projet chaque fois à être, en fait, finalement, elle en parle, Virginie Despentes, à un moment, elle dit, nous devons apprendre à nous démettre des autorités. Mmh. Et il se fait que ce projet, à chaque fois, il réavance en dehors des institutions. Et en fait, on voit bien que quand on prend les chemins de traverse, et on a eu cette chance parce qu'il y a eu une bourse au départ de transformation, et tout, donc il y a eu les moyens, grâce d'ailleurs au Covid, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont débloqué de l'argent pour les artistes, pour leur dire, bah, si on n'a plus... Qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, eh bien, en ayant un peu, en prenant notre liberté de dire quelque chose, tout d'un coup, on arrive à se démettre de ça. De rendre, d'avoir des rendus à des institutions où on devrait être bien droit dans nos bottes, bien dans les cases. Mmh. Et c'est ça qui nous permet de dire cette parole-là aussi.
Ouais. Alors, à propos de moyens, justement, comment vous avez été...
Alors, en fait, on est en fait, c'est une compagnie suisse avec laquelle je travaille énormément.
D'accord.
Et même dont je suis quasiment partie prenante. Donc, où il y a Jacques Michel. Et puis, c'est en Suisse qu'il y a eu des bourses. C'est en Suisse qu'il y a eu des bourses pour. Justement, des bourses de après le Covid. Pour
du ministère bourses, du...
Non, alors, y a pas de, c'est pas comme ça que non. ça s'appelle.
Fondation.
Là, c'est une bourse de la ville de Genève, en fait, qui a donné des bourses de recherche aux compagnies. D'accord. Puis, chemin faisant, on a eu une fondation, pas une fondation, mais la Loterie Romande, donc c'est un peu comme la Française des Jeux, qui donne de l'argent. Et puis, on est...
Et puis, dans chemin le cadre faisant, de la francophonie, toujours ?
Non, c'est que nous, on était vraiment... On a fait comme si... Je veux dire, c'est une production suisse, en fait. Il se trouve que moi, je suis là, que Furiosa est là, et que c'est une... on va dire, le personnel, les artistes sont franco... Il y a des Français et des Suisses, mais la production, au départ, elle est suisse.
D'accord.
Et donc, c'est par l'argent suisse. En France, il n'y a pas eu tout ça. En France, il n'y a pas eu toutes ces aides.
Non.
Et maintenant, nous, on vient en France parce qu'on aimerait que ça s'ouvre.
Ben oui.
Et on va voir comment on va financer. Mais pour l'instant, la France n'a pas mis un sou là-dedans.
C'est incroyable. Voilà.
Ben ouais.
Mais parce qu'ils sont même pas au courant. Je veux dire, pour l'instant, ils sont pas au courant.
Alors que c'est tellement une évidence qu'il faille le dire ici.
Le dit Nino Furiosa, c'est que, par exemple, après le sang où on a fait cette chose qui était une soirée privée, on veut dire c'était des soirées privées, eh bien, ce qui vient à nous, c'est encore de l'alternative. C'est-à-dire, c'est le lavoir moderne parisien, c'est pas... même dans l'alternatif, les lieux plus chics qui disent « Ah, c'est super, vous êtes super, c'est génial, mais quand même ce texte. » Du genre, mais quand même
ça
ce
dérange.
Texte.
Ouais, ouais.
Et puis, il y a le truc, c'est que ce texte est quand même féministe au sens vraiment pareil, plein de souffle, mais qui n'hésite pas sur cette histoire du patriarcat que nous devons impérativement démonter pour nous en sortir. Mmh. Et donc... Et ça, je pense que ça peut, vu qu'on est dans des pouvoirs qui sont quand même réellement, de moins en moins, je veux dire, dans la culture, mais réellement tenus par des mâles blancs, forcément, cette idée de dire, terminer de passer nos vies à quatre pattes sous les tables de vos festins, à grignoter vos restes et sucer vos bites à l'aveugle, gratuitement, aimablement, en remerciant abondamment à chaque éjaculation... Mmh. Ça nous fait tellement plaisir de vous voir heureux, vous qui êtes à table. Terminé. Maintenant, quand on ouvre la bouche, c'est pour mordre. Et juste avant, il y a le patriarcat est une narration et elle a fait son temps. Et donc, il y a cette histoire de...
Mais en fait, c'est aussi le changement de narration. Est-ce que je peux dire ce
moment... Oui, et tu vas dire ce texte de la grande prêtresse.
Qui est juste avant, qui est un texte justement qui ouvre, parce que ça, là, ce qu'on vient de dire, c'est vraiment le moment le plus... c'est très incisif sur la question du patriarcat. Mais en fait, ce qu'elle essaye de dire, c'est comment on laisse la place au monde qui vient, et qu'il y a un effondrement. Donc, il faudra bien changer de narration. Les marchés, ça n'existe pas. On ne parle pas d'ouragan, d'incendie, d'océan, de montagne, de grand gel. On ne parle pas de choses réelles quand on parle de marché. Ce ne sont pas des géants à la colère desquels on n'échappe pas. Nous ne sommes pas gouvernés par des dieux tout-puissants qui peuvent se passer de notre accord pour asseoir leur bordel. Nous sommes gouvernés par de vieux imbéciles qui ont peur que leurs cheveux frisent sous la pluie et qui posent à moitié nus sur des chevaux pour exhiber leur grosse virilité. Nous sommes gouvernés par de vieux impossibles
à qui il est tout à fait possible de dire demain « Mais va donc la faire toi-même, ta guerre !» Si il est si important de toujours tout confier aux plus violents, organisez donc de grands matchs entre dirigeants et qu'ils se démerdent entre eux sur le ring avec le goût qu'ils ont pour le sang. Il est temps de se soustraire aux évidences. Le monde tel qu'on le connaissait s'effondre. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Yes.
Bien. J'espère que M. Macron a tout entendu.
Ouais, Macron.
Voilà.
Et c'est là d'ailleurs qu'on en arrive assez rapidement à cette histoire. Nous devons apprendre à nous démettre des autorités.
Voilà.
Et donc, c'est passionnant, c'est enthousiasmant. Ça...
Tu as quelque chose encore à rajouter ?
Non, on pourrait.
Bien sûr.
Il faut venir voir le spectacle. Ça s'appelle Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure.
Voilà.
Il faut donner les dates.
Alors,
pour l'instant, ce sera à l'automne. Ah. Ce sera au Lavoir Moderne Parisien, mais on va dans un...
Alors, où est-ce qu'il faut qu'ils s'informent, les auditeurs et auditrices ?
Au Lavoir Moderne Parisien, nous serons...
Au Lavoir Moderne Parisien, qui se trouve...
Dans le 18e. Rue Léon, je crois.
Rue Léon.
Voilà.
D'accord. Et Métro Barbès, quelque chose comme ça ?
Je dirais Château-Rouge.
Château-Rouge, d'accord.
Il y a un Facebook aussi.
Et il y aura un Facebook.
Il y a la page Facebook de la compagnie Hybride et Compagnie.
La compagnie Hybride et Compagnie, voilà. D'accord,
Hybride, Facebook. Hybride et Compagnie, et Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, si vous l'écrivez sur Instagram, YouTube...
Donc n'oubliez pas le titre, Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Voilà, c'est dit.
On peut lever des murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières et les procédures pour les traverser, à la fin c'est inepte. Ta réalité traverse la mienne, ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse.
Yeah. Yes. Écoutez, un grand merci en tout cas à vous.
Et merci à vous.
Je ne te retarde pas si vous avez...
Voilà, c'est bien si on y va, c'était formidable. Et vive Radio Libertaire.
Est-ce une dernière chanson, quelque chose ?
Eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait Virginie Despentes en 92 ?
Elle faisait du punk.
Yes !
Sur les voies de l'égalité, beaucoup de chemins parcourus. C'est que nos mères ont su imposer leur vérité face à la bienséance, malgré l'intolérance. Mais si avant toi, toutes les filles avaient tenu pour acquis ce que Camille, on leur avait appris, tu travaillerais encore pour trois fois moins qu'un homme. Avant même que tu ne saches parler, que les idées fragmentent sur la chirurgie, ces meurtres, sa conscience débile.
des sexes tient l'autre en effet. Femme abusée, femme détournée. Mais par contre, ça s'est brûlé sur les bûchers d'une morale. Trivial, un peu se barrer de mal. Par le système matriarcal. En fait, le plus de dévisage, je suis juste car toujours le pire.
Merci Virginie Despentes. Hein.
Alors, Véro, elle a encore quelque chose à dire.
Bah, je veux juste quand même dire qu'il s'agit de Rien ne me sépare de la mer qui m'entoure, que j'ai moi-même mis en scène, donc Véronique Rose de Lagrange, une musique de Furiosa et Béatrice Graff, collaboration artistique avec Jacques Michel, et donc avec Furiosa, Béatrice Graff, Jacques Michel, Céline Gormartide, une scénographie de Karim Bakrich, les lumières de Johan Tivoli, les maquillages de François Chomérac, une création collective de costumes Furiosa, Véronique Rose de Lagrange, Émilie Revel et Julie Delieutraz, et ensuite tous les autres.
Et la batteuse
là. Et la batteuse, c'est Béatrice Graff.
Ah, évidemment.
Voilà. Elle a déjà été
notre
citée.
Notre diva.
Voilà, notre diva. Et super. Nous sommes
alors,
tous.
Encore une fois, il n'y a pas de date particulière.
Non. À l'automne, regardez au Lavoir moderne parisien. On va y jouer, on n'a pas encore les dates.
Même si
voilà, au Lavoir moderne parisien.
Et nous reviendrons à Radio Libertaire.
Absolument.
Merci
bienvenue.
Pour l'accueil.
Bienvenue.
Merci pour l'accueil. Et on prendra un câble pour écouter de la musique.
Et la prochaine fois, on fait du son en direct. Yes.
Inch'Allah. Merde alors.
Yes, merde.
Allez, merci Radio Libertaire. Merci. On lâche rien.
Voilà, on lâche
rien.
Rien. Surtout rien.
Allez, on va se quitter sur les petits cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie.
C'était de très grands vents sur toute face de ce monde. Saint John Perse. Sur la musique de Satie. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde. De très grands vents liaient sur le monde. Qui n'avait d'air ni de gîte. Oui, qui n'avait garde ni mesure. Et nous laissait hommes de paille, en lents de paille, sur l'horaire. Ah oui, de très grands vents, surtout de face de vivants. La pourpre, la silice, flairant l'ivoire et le tesson, flairant le monde entier des choses, et qui courait à leur fils. D'athlètes, de poètes. C'était de très grands vents en quête sur toute piste de ce monde, sur toute chose périssable, sur nos choses saisissables, parmi le monde entier des choses. Et puis vint l'exil, Saint John Perse, ceux-là qui furent se croiser au large des grands Indes atlantiques, ceux-là qui flairent l'idée neuve aux confins de l'abîme, ceux-là qui soufflent dans les cornes aux portes du futur, savent qu'au sable de l'exil sifflent les hautes passions levées sous le fouet de l'éclair, aux prodigues sous le ciel et l'écume de juin, garde présente parmi nous la force occulte de son chant.
Des sabots, des bottes ou des sandales? C'est la question, bien sûr, avant la réponse. Regarde-moi, ami, et joue avec moi, au temps qui passe. Dans le fleuve de nos émois, je ris et je pleure, et je t'aime. T'auras le souvenir de mon amour. T'auras l'amour qui saigne. Et les arbres grimperont au-dessus des livres ensommeillés. Tu seras leurs mains et tu agiteras ma mémoire au creux de leurs paupières. Tu feras naître une chanson toute fraîche, saillie entre tes doigts, ma ligne cavalcade de sons. Carnaval d'odeur et de couleur. Et tu enfonceras ton doigt dans le paysage. La musique, encens de ton âme, boira ton sang, couleur de tes folies. Je te suivrai au bout de ma pensée. Je reprendrai mon souffle dans le silence. Je serai en dessous d'une nappe de bruyère, impassible, exaucée, en t'écoutant passer. Je me soulèverai et t'entendrai pousser au sein de ma mémoire penchée vers toi. Lève les yeux, ami, et crois donc me voir, moi qui partage enfin ta douleur et tes joies. N'aie crainte de l'illusion. Rappelle-moi à toi, simplement souriant, à l'enfant tapageur. Je serai à l'heure de notre amour.
Et voilà, ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène. Moa, un petit mot à rajouter. Qui était notre invité du début? Son livre s'appelle comment? Où le trouve-t-on?
Le titre?
Oui.
Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure.
Ça, c'est pour le spectacle théâtre, à retrouver au Lavoir moderne parisien. Et le livre...
Et le livre, donc, de Véronique Brocard. Sur justement les interviews de prisonniers,
radicalisés,
sympathisants de l'islamisme syrien. Voilà.
Allez, et tout de suite, on va retrouver Bulle Noire avec une invitée polar et tout à l'heure Bobolov et sa chronique littéraire.